C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de rester sur.
Bonsoir tous les fidèles auditeurs de VOA Afrique. Merci de choisir Sporama, votre émission qui parle du sport tous les lundis à partir du 19h temps universel. Élisée Rumpati devant ce micro. Nous allons d'abord saluer nos consultants. Fidèle au poste, Lawadine Kosovo. Bonsoir.
Élisée, bonsoir.
De Kinshasa, Valdo Simbo Yamba Yamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, on prend la direction de Columbus dans l'Ohio pour retrouver Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Ce soir, nous allons parler de la reprise des championnats en Côte d'Ivoire décidée par le comité de normalisation de commun accord avec les clubs. La CAN des moins de 20 ans se poursuit en Mauritanie avec la troisième journée des matchs du groupe. Et puis, on connaît tous les clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la CAF. Bienvenue à tous. Le ballon pourra de nouveau rouler sur le rétang vert en Côte d'Ivoire compté du 19 mars prochain. C'est l'annonce majeure faite à l'issue du point de presse animé par Mariam Gabala Dao, présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Avec un brin d'optimisme, elle évoque les enjeux de la reprise des différents championnats, les missions et les ambitions du comité de normalisation. On retrouve notre correspondant sur place en Côte d'Ivoire, Siriti Baro, pour plus de précisions.
Du 19 mars au 27 juin 2021, soit 4 mois de compétition, c'est le temps que va durer le championnat national de Ligue 1. 14 clubs repartis en deux poules disputeront ce championnat dans le contexte inédit de la mise sous tutelle de la FIFA. Les championnats de 2e et de 3e division ainsi que le championnat féminin reprendront également dans la foulée. Selon Mariam Gabala Dao, présidente du comité de normalisation, ces décisions ont été prises avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes.
Nous avons pris le temps d'écouter la presque totalité des acteurs, l'État, les clubs, les groupes d'intérêt, le comité de direction de la FIFA.
Faire vivre les acteurs du football avec la reprise des différents championnats, c'est le premier vaste chantier auquel s'est attaqué le comité de normalisation. Mais les autres chantiers sont tout aussi prioritaires pour Mariam Gabala Dao et son équipe.
C'est une institution qui était asphyxiée. Asphyxiée financièrement, asphyxiée aussi par le manque de compétition dû à la Covid-19. Nous avons décidé, en tant que collège, si j'ose dire, de médecin, de dire qu'il faut pallier d'abord à donner de l'oxygène à l'organisme de l'institution et ensuite de faire un diagnostic complet pour savoir quelles sont les causes des soucis de santé qu'a cette institution et pouvoir y trouver les médicaments appropriés.
La présidente du comité de normalisation s'est voulue rassurante quant à l'engagement de son comité à travailler en totale indépendance dans l'optique de résoudre les problèmes au sein de la Fédération ivoirienne de football.
C'est une équipe qui est totalement indépendante. Il est important de le relever pour dire que on ne peut pas venir chercher à apaiser une maison en prenant nous-mêmes partie dans le conflit de cette maison-là.
Le grand ménage semble avoir commencé au sein de la maison de verre. Sam Etiassi, ex-directeur exécutif de la FIF, dont le contrat était arrivé à expiration, a été débarqué de ses fonctions. Chiriki Baro, Boaké, pour VOA Afrique.
Valdo, après un an d'interruption pour raison de crise sanitaire et d'imbroglio à l'élection du président de la FIF, le championnat ivoirien de football Ligue 1 reprend ses droits enfin, pourra-t-on dire.
Élisée, le football est plus que dans l'obligation de reprendre son cours normal en Côte d'Ivoire après tous ces imbroglios qui n'ont rien apporté si ce n'est un frein sur la pratique de ce sport roi. Il est donc temps que l'on joue à nouveau au football au pays des éléphants. La crise sanitaire semble de plus être la raison pour ne pas courir derrière les ballons. La crise au niveau de la Fédération ivoirienne de football est loin de trouver une solution pouvant calmer les uns et les autres, mais l'obligation est telle qu'il faut sauver la pratique du football et les joueurs qui n'ont que le football pour vivre et faire vivre leur famille. Élisée, s'il en est ainsi, c'est donc une bonne nouvelle pour les amoureux de ce sport en Côte d'Ivoire.
Ahmedine Sy, c'est la première fois que le championnat de football ivoirien va se tenir sous tutelle de la FIFA. Quelle incidence cette situation pourrait-elle avoir sur ce championnat?
C'est vrai, Élisée, mais je ne pense pas qu'il y aura une incidence sur le déroulement de la compétition Élisée, car il fallait que le football reprenne au niveau du pays des éléphants, car depuis presque un an, on n'a plus joué en Côte d'Ivoire. C'est vrai que ce sera un peu difficile pour le comité de normalisation, mais il a été installé pour ça, pour normaliser. Je ne pense pas qu'il y aura de problème, parce qu'au Sénégal, en 2009, il y avait un comité de normalisation qui a organisé le championnat à merveille. Ça fait très longtemps, le ballon n'avait pas roulé en Côte d'Ivoire et cela faisait désordre. Maintenant, les choses doivent revenir à la normale et je pense que le comité de normalisation va relever ce défi de l'organisation Élysée.
Amine Birouk, selon le CONOR, il faut d'abord lancer la saison avant de procéder au diagnostic pour guérir la FIFA. Est-ce une bonne approche pour régler définitivement les problèmes du football ivoirien?
Disons que c'est une approche acceptable pour le football ivoirien, mais la question qui se pose, pourquoi attendre que la FIFA désigne un comité de normalisation pour que l'on puisse lancer le championnat? N'aurait-il pas fallu penser à mettre sur les bons rails le championnat, ne serait-ce que pour permettre à tous ces professionnels, à tous ceux qui vivent du football, de pouvoir subvenir à leurs besoins, et après, bien évidemment, penser à ces élections. On était dans l'impasse aujourd'hui. On commence à voir le bout du tunnel. On commence à avoir un début de solution. J'espère tout simplement que le comité de normalisation poursuivra cette tâche avec la même lucidité, de façon à pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de se relancer et surtout de résorber les vrais problèmes structurels du football ivoirien.
Justement, Lawal, le CONOR n'a pas hésité à ranger Sam Etiassé, ex-directeur exécutif de la FIFA, dont le contrat était arrivé à expiration. N'est-ce pas le début d'une chasse aux sorcières?
Non, Élisée, je ne vais pas parler de chasse aux sorcières parce que le contrat, il était clair. Il fallait donc un temps pour l'exécuter. Le temps est passé. Il est logique que l'on puisse, si on ne le démettait pas ici, sur
lui qui était le grand
puissant, le tout puissant, entre-temps, acteur de la crise qui secoue aujourd'hui le foot ivoirien. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait chasse aux sorcières. Les tests sont appliqués, du moins. Maintenant, si le CONOR ne prend pas en compte tout ce qui a fait la crise au sein de la FIFA et qu'il se met dans une logique de chasse aux sorcières, c'est là où ça va pas marché. J'espère que les responsables du comité de normalisation ne vont pas faire cette erreur-là pour raviver ensuite une crise latente après avoir pensé régler la crise.
Merci Lawal. Le Mali aussi veut réorganiser son football après l'Assemblée générale ordinaire suspendue le 27 décembre dernier sur une ordonnance Vitas. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football a, conformément aux dispositions du CETES, organisé une Assemblée générale extraordinaire au centre de conférence internationale de Bamako. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette assise. On écoute le président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré, dit Bavieux.
On retiendra de l'Assemblée que tous les documents qui avaient été soumis à l'approbation de l'Assemblée ont été adoptés et à l'unanimité des membres présents. Et on retiendra également de l'Assemblée que ça s'est déroulé dans un cadre convivial, un cadre très apaisé. Et vous avez dû le constater, il n'y a pas eu de problème. Les gens ont posé des petites questions de fond ou de sémantique sur lesquelles le comité exécutif a donné toutes les réponses nécessaires. Et nous nous projetons très rapidement, nous l'avons dit tout de suite à l'Assemblée, de mettre en place une petite commission avec tous les acteurs du football qui vont réfléchir, trouver les voies et moyens afin d'amener et vraiment d'autres sponsors à pouvoir accompagner le football malien. Est-ce que la crise est enterrée? Je ne le sais pas, mais en tout cas aujourd'hui, tout portait à croire que la crise est beaucoup plus derrière nous qu'à côté de nous.
On revient vers vous, Ahmedine. On pourra dire que les acteurs du ballon rond malien se sont finalement entendus.
Oui, Élisée, il faut souligner pour une première rencontre depuis l'élection de l'actuel bureau, les choses se sont bien passées. D'ailleurs, les budgets 2019-2020 et 2020-2021 ont été approuvés. Il faut rappeler, Élisée, que le football malien était dans une zone de turbulence depuis 4 ans, hein, mais cela n'a pas empêché aux footballeurs maliens de tirer leur épingle du jeu malgré le manque de compétition, car il n'y a pas eu de championnat au Mali. Mais vous avez vu la bonne performance de l'équipe nationale locale du Mali qui a été finaliste lors du dernier CHAN. Cela veut dire qu'un bon travail est en train d'être fait au niveau quand même du football malien. Maintenant, il faut tout faire pour dépasser cette situation. En tout cas, je souhaite que le football malien sorte la tête de l'eau. C'est tout le mal que je souhaite à mes voisins maliens, Élisée.
Valdo, est-ce le début de la décrispation entre les acteurs du foot malien?
Au Mali, le football en dehors de son milieu naturel ne s'en venait pas se soumettre aux principes et règles établies. Voilà pourquoi tous ces administratifs ont intérêt à harmoniser leur vue pour que les choses redeviennent à la normale. Donc, si le comité exécutif de la Fédération malienne de football commence déjà par organiser cette assemblée générale extraordinaire, ce qui veut dire que l'issue à ce qui peut être qualifié de crise n'est plus loin. Il y a donc opportunité de préserver l'image du football malien qui demeure très en vue sur le continent avec des preuves au niveau de la formation des jeunes, quoique les titres ne suivent pas du tout. S'il faut citer en exemple les deux finales du championnat d'Afrique des Nations perdues 2016 et 2020, sur le continent, il s'est donc de dire que le football malien est d'une certaine classe en termes de formation et d'identité technique qu'il faudra préserver.
Amine, trop de crises dans le football en Afrique, surtout au sud du Sahara.
Disons qu'aujourd'hui que c'est une mode pour le football d'Afrique subsaharienne en particulier, mais également en Algérie où il y a aussi un bras de fer entre l'État et la fédération actuelle pour la mise à niveau de certains textes qui permettraient la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, puis de l'assemblée générale élective qui permettrait de désigner le bureau qui succéderait à Khaled Nizotchi. L'Afrique aujourd'hui est à la merci de la FIFA qui, d'une façon ou d'une autre, implante comité de normalisation, comité provisoire l'un après l'autre. Et visiblement, il va falloir que les querelles de personnes puissent, d'une façon ou d'une autre, être remplacées par des querelles de programmes, entre guillemets, ou plutôt par des débats sur des programmes, sur de la vision, plutôt que sur de simples ambitions égoïstes. La FIFA en profite pour s'ingérer davantage et aujourd'hui, plusieurs pays sont à la merci des desiderata qui viennent de Zurich et qui sont aujourd'hui le reflet aussi d'une certaine incompétence au niveau du management et de la gouvernance sur notre continent.
Lawal, parmi les 85 délégués convoqués, 82 ont répondu présents, dont 3 abstentions constatées. Ça laisse des doutes?
Non, je ne vais pas dire des doutes, parce que la majorité absolue est obtenue ici. Ce n'est pas 3 individus qui vont relancer les choses, j'estime.
Justement, Lawal, le collectif des clubs de Ligue 1 a par ailleurs voté contre les projets et ensuite affiché son intention de saisir dans les jours à venir le tribunal arbitral du sort. Il y a toujours ce problème entre le collectif des clubs de Ligue 1 et la fédération.
Oui, il faudra que les uns et les autres puissent désormais savoir raison garder et faire en sorte que le foot soit relancé véritablement. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'entre la fédération et le collectif des clubs que la fédération appelait à gérer, qu'il y ait crise, qu'on ne s'entende pas, c'est un certain nombre de choses. Il faudra que les gens aillent à la table des négociations, s'entendent sur l'essentiel pour relancer les choses. Ça fait très, très mauvais d'entendre crise par-ci, crise par-là, et qu'on ne puisse pas s'entendre, se parler et régler les problèmes. Et qu'on...
C'est la CAF arrive bientôt. On voit d'ailleurs Infantino sur le continent en train de battre campagne.
Oui, c'est bien triste. C'est bien triste. Infantino, il n'a qu'à s'occuper de ce qui fait ses prérogatives au sein de la FIFA. La FIFA a même des problèmes. Il n'a qu'à régler ses problèmes avant de s'ingérer dans les problèmes des autres. Malheureusement, on prête flanc à l'ingérence d'Infantino et Tutti Quanti.
On reviendra lundi prochain.
On croit qu'on est en train de faire le bon droit, mais fondamentalement, on crée plus de problèmes qu'on en règle.
le terrain, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans entre dans sa phase active. Certaines équipes ont même déjà validé leur billet pour les quarts de finale après seulement deux journées. Le cas des Lions indomptables. Alors, Lawal, le Cameroun a clairement affiché son ambition. 3 matchs, 3 victoires.
Oui, il est temps pour les Camerounais de revenir au devant de la scène continentale. On a vu les locaux au Chan battus à plate couture par le Maroc en demi-finale et puis ensuite perdre la petite finale. On sent que les Camerounais veulent redorer leur blason. Il était temps pour eux de le faire. Maintenant, si ça commence par les juniors, on espère donc que ça va continuer et que d'ici un an à la CAN, chez eux, ils vont pouvoir, comme ils ont eu à le faire en 84, en 2000 et en 2002. On espère que les Camerounais vont revenir au devant de la scène. Les juniors vont peut-être ramener le trophée et qu'ensuite les seniors vont suivre les pas de leurs jeunes.
Alors, Valdo, une première participation pour la Centrafrique qui a fait forte sensation.
Élisée, c'est une qualification historique pour le Fauve des Bazoubangui dans cette catégorie d'âge qui écrivent ainsi en lettres d'or leur participation à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et de quelle manière? Qualification obtenue grâce à une victoire sur une sélection du Maghreb qui est la Tunisie. Une totale satisfaction donc pour cette nation qui est passée par toutes les saveurs d'une compétition pour une première, à savoir le nul d'un but face à la Namibie, la défaite 3-1 devant le Burkina Faso. Et ce qu'il y a de mieux, la victoire 2-1 sur la Tunisie qui débouche d'une qualification en quart de finale. Bravo à eux et ça démontre à suffisance qu'il y a de l'avenir dans cette jeune génération.
Amine, la compétition démarre véritablement en quart de finale. Le Maroc doit faire mieux.
Le Maroc, il va avoir une tâche assez rude puisqu'il va devoir confirmer lors du troisième match face à la sélection tanzanienne. Un adversaire évidemment à la portée puisque les Tanzaniens, pour le moment, ont subi une lourde défaite face aux jeunes Black Stars du Ghana avant de concéder une extrémiste à nul contre la Gambie. Les Marocains sont allés crescendo, même si leur premier match s'est soldé par une victoire face à la Gambie, la prestation n'a pas été convaincante, alors que face au Ghana, en dépit du match 0-0, les Marocains ont dominé les débats. Il leur a manqué un point de précision dans la finition pour pouvoir composter leur ticket pour les quarts de finale. Les quarts de finale où on retrouvera le Cameroun et l'Ouganda. Le Cameroun a réalisé un parcours parfait avec 3 matchs, 3 victoires. Et l'Ouganda qui a sorti le pays organisateur, la Mauritanie. La Mauritanie qui est dans l'expectative et qui va attendre de voir si elle peut finir parmi les deux meilleurs troisièmes.
On connaît aussi presque tous les qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la CAF après les matchs retour du tour de cadrage. Et à Medine, si les clubs sénégalais sont en bonne santé cette saison, après Tunguet, c'est au tour de Djaraf d'être en phase de groupe.
Tout à fait, Élisée, les Sénégalais ont composté leur ticket en éliminant Platinum. Les hommes du président Cercek qui avaient réussi l'exploit de s'imposer à Harare ont confirmé leur belle performance grâce à un but de Elas Bodike Kan. Il a transformé un coup franc magistralement à la 13e minute. Les Verts Blancs ont ensuite géré cette rencontre pour s'imposer devant une belle équipe de Platinum qui n'a pas du tout démérité. Avec cette victoire, le Djaraf entre dans l'histoire en disputant pour la première fois la phase de poule. C'est une embellie pour le football sénégalais parce qu'après Tanguy FC qui joue la phase de poule de la Ligue africaine des champions, voilà le Djaraf qui se qualifie en phase de poule de la Coupe de la CAF. Élisée.
Valdo, en revanche, le Daring Club Motéba Pembe ne réussira pas comme l'année dernière. Une grande déception.
Grande est la déception côté des Sampé qui croyait avoir fait les plus durs en déplacement après son match nul d'un but. Le même score a sanctionné les deux formations dimanche 21 janvier à Kinshasa au stade des Martyrs puisque les Libyens des Benghazi ont réussi à revenir au score. Et c'est à la fatidique épreuve des tirs au but que ces derniers s'y qualifient en face des groupes de la Coupe de la Confédération. La qualification échappe aux locaux la veille de la célébration de leurs 85 ans d'existence. Un véritable coup dur puisque Destinpé est également mal en point en championnat de la RDC. Il est au beau milieu du classement. Cette élimination pourrait révéler beaucoup de choses que seule la qualification en face des groupes de cette compétition pourrait cacher. Donc ça craint pour cette formation qui n'aura plus assez de garanties pour conserver son effectif.
Amine, fortune diverse pour le Maroc avec ses deux représentants.
Résultat mitigé pour les deux clubs marocains engagés dans cette Coupe de la CAF. Si la série de tirs au but a souri au Raja de Casablanca à Monastir après une courte défaite 1-0, en revanche le TAS avait cru avoir fait le plus dur, c'est-à-dire remonter un score adverse de 2-0 face aux Zambiens de Canary Devils, mais l'expérience, le métier des Zambiens a prévalu en seconde mi-temps. Seul but a suffi au bonheur des Zambiens qui se qualifient face à ce club de deuxième division marocaine qui aura tout de même vécu une belle aventure. Le Maroc comptera deux clubs dans cette phase de groupe de la Coupe de la CAF dont le tirage au sort est prévu ce lundi, à savoir le Raja et l'ARSB, deux clubs qui seront lotis dans le premier chapeau.
Merci Amine. Et justement, à l'issue du tirage au sort, Eniva jouera en tant que sétif Orlando Pirates et Al-Ahly Benghazi dans le groupe A. Coton Sport du Garoua affrontera dans le groupe B Renaissance de Bertane, JS Kabylie et les Zambiens de Napsa. Salitas et Djaraf seront opposés dans le groupe C au club sportif Fassien. Et puis on aura dans la poule D Raja de Casablanca, Pyramide d'Égypte, Nkana de la Zambie et Primeiro do Agosto d'Angola. Au niveau des interclubs de la CAF, on joue demain mardi la deuxième journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. À Médine, Tungut a une carte à jouer contre Zamalek après sa bonne prestation de la première journée.
Tout à fait, Élisée. Les Sénégalais qui jouent le deuxième match de l'histoire en Ligue des Champions tenteront de rentrer définitivement dans l'histoire en signant leur premier succès. Les hommes de Youssou Dabo qui ont frôlé l'exploit face à l'expérience de Tunis avant de concéder une défaite essayeront quand même cette fois-ci de prendre le dessus sur les adversaires et ils joueront, je pense, sans complexe car ils ont les moyens de le faire. Ils l'ont prouvé en éliminant quand même le Raja de Casablanca, mais ce ne sera pas facile car en face il y aura une équipe du Zamalek très expérimentée, mais les Égyptiens vont se présenter sans deux de leurs joueurs majeurs. Il s'agit du latéral droit Hassem Eman et du défenseur central Mahmoud. Mais cela ne veut pas rien dire car une équipe comme le Zamalek est très expérimentée. Mais les Sénégalais joueront leur chance à fond pour pouvoir inscrire leur première victoire de l'histoire de la Ligue des champions africaine Élysée.
Valdo, les deux clubs congolais aussi, ASV Club et TP Mazembe, n'ont d'autre choix que de réagir à l'extérieur.
Élisée, c'est plus qu'une obligation de réagir positivement côté congolais, quoique c'est en déplacement. Ça s'annonce pas facile pour Mazembe et Vita Club qui ont d'ailleurs fait route ensemble à partir d'Addis Abeba pour rejoindre la même destination qui est le Soudan pour y affronter Al Hilal, Omdurman et El Merreir qui ont tous deux perdu lors de la première journée de cette phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Les deux clubs congolais n'ont qu'une option, l'emporter. Question d'échanger d'air lors de cette deuxième journée avant s'envoler. Pour le Soudan, Mazembe et Vita Club ont bien répété leur gamme en championnat national de la RDC avec une victoire chacun. 1-0 pour Vita Club et 3 buts contre 1 pour Mazembe. Espérons que ces résultats seront de bon augure pour les deux représentants de la RDC à cette phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF.
Amine, finalement le Wydad démarre par un déplacement à Luanda face aux Angolais de Petro Atlético.
Un Wydad avec des certitudes en Angola puisqu'il débarque face à Petro Atlético avec deux victoires en Botola Pro et un leadership. Et puis avec quelques incertitudes étant donné le match de ping-pong entre la CAF et la FRF concernant le lieu du match entre le WAC et Kaiser Chiefs. On rappelle tout simplement que la CAF a envoyé un ultimatum à la fédération pour trouver dans les 24 heures un terrain pour disputer cette rencontre. La réponse de la FRMF ne s'est pas faite attendre puisqu'elle a demandé un délai supplémentaire de 24 heures. Donc nous verrons dans quelle optique le WAC va débarquer en Angola et avec quelle morale, étant donné les incertitudes qui règnent également sur son sort dans cette compétition et notamment dans sa double confrontation face au Kaiser Chiefs.
Lawal, en Europe, les derniers matchs des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions se disputent ce mardi et demain mercredi avec un intéressant Atlético de Madrid, Chelsea.
Et Chelsea, c'est pas la grande foudre de guerre.
Depuis l'arrivée de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, on
sent que Chelsea a une nouvelle âme avec Tourelle. C'est vrai que sur papier, c'est un derby. Ça sera le choc entre deux bonnes défenses.
Voilà.
Yano Black est là et puis de l'autre côté il y a le Sénégalais qui montre toute sa classe en première ligue. On espère que ça va donner.
Le Real Madrid doit se méfier des Italiens de l'Atalanta Bergame.
Bon, l'Atalanta l'année dernière, avec sa première participation, qui se retrouvait en demi-finale, et aujourd'hui, le Real n'a pas cette hargne-là qu'on a connue il y a 2-3 ans en arrière.
Merci Lawal. Sporama qui s'achève. Présentation Élisée Rumpati. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Tout de suite, une nouvelle édition du journal. Au revoir.